Bonjour à tous. Je vous invite à lire ou à écouter la lecture biblique dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses gens et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. L'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde. Et la fin des vacances, la rentrée à venir, c'est pas l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est quoi ? Dans un premier temps, je vais me risquer à commenter succinctement ce chapitre que nous venons de lire, et dans un deuxième temps, je vous ferai part de quelques réflexions sur ce livre de l'Apocalypse qui ne laisse pas indifférent. Catastrophe naturelle, combat, souffrance, destruction, reconstruction, puissance des forces du mal, puissance de Dieu, place de l'agneau. Soit vous avez de l'intérêt pour ces messages plus ou moins codés, soit vous dites, c'est trop compliqué, trop imagé, trop violent, je préfère d'autres passages du texte biblique. Que chacun puisse, ce matin, être réceptif au message de la parole de Dieu. Revenons au chapitre 12. Au début, une série de signes, de symboles qui orientent notre attention vers quelque chose. Premier signe, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Deuxième signe, un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. deux idées, deux réalités qui s'opposent et qui s'affrontent avec beaucoup de violence. L'opposition est réelle dans le domaine céleste, dans le ciel. Il a été donné effectivement à l'apôtre Jean d'entrevoir ce qui se passe au ciel. Dans l'introduction, Apocalypse 4, les versets 1 et 2. Donc c'est Jean qui parle, comme on l'a dit. « Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Nous connaissons tous très bien les contraintes et les limites de notre vie terrestre. Sur Terre, nous vivons dans un espace où le temps avance inexorablement, seconde après seconde, heure après heure, jour après heure et année après année. Le ciel est l'endroit de l'éternité. Le ciel est l'endroit où les rapports des êtres qui vivent sont différents de ceux que nous connaissons sur Terre. Mais le ciel et la Terre interagissent. Nous lisons que la queue du dragon, au chapitre 12, verset 4, que la queue du dragon entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre pour nous dire que les forces du mal sont présentes et actives sur terre. L'image horrible du dragon prête à dévorer l'enfant qui vient d'être enfanté est insupportable. D'après le contexte et la suite du récit, l'enfant mis au monde par la femme est bien Jésus, le Fils de Dieu. Jean nous rappelle qu'il vient du ciel et nous a rejoints sur terre dans notre humanité. Pour les forces du mal actives sur terre, une lutte s'est engagée pour empêcher Jésus, le Fils de Dieu, de mener à bien sa mission. Dès son plus jeune âge, Jésus a échappé à la mort lorsque Joseph et Marie l'ont emmené en Égypte pour se soustraire au massacre des nouveau-nés ordonné par Hérode, le roi des Juifs de l'époque. Satan lui-même a tenté Jésus, le Fils de Dieu, pour le détourner de sa mission après 40 jours de jeûne dans le désert et avant le début de son ministère actif en Palestine. On peut lire ça dans Matthieu 4, les versets 1 à 11. À trois reprises, Satan veut empêcher Jésus d'accomplir la mission terrestre que Dieu lui a confiée. Mais Satan recule, le dragon n'arrive pas à ses fins. L'enfant bénéficie de la protection absolue de Dieu. L'enfant est destiné à paître toutes les nations de la terre. Et Jean cite en partie le psaume 2 qui nous apprend que l'enfant, loin de l'Éternel, aura les nations pour héritage. On va lire le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans la révélation faite à Jean, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ ressuscité, monté au ciel, pour siéger à la droite de Dieu pour l'éternité. Jésus a définitivement vaincu la mort et vaincu le dragon, Satan, en obéissant inconditionnellement à la mission que le Père éternel lui a confiée. La femme doit fuir dans le désert où elle est protégée et nourrie par Dieu pendant 1260 jours, dit le texte. La femme qui a enfanté le fils, c'est Marie. Par extension, la femme pourrait être le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. pourrait, par extension, elle pourrait représenter également l'Église de Jésus-Christ. Le passage nous dit clairement que ce n'est pas à la femme de livrer combat contre le dragon, même s'il faut se tenir à distance ou se soustraire à la menace par la fuite, plutôt que de provoquer l'affrontement. Dieu assure la protection pour un temps donné. Le combat, la guerre, nous dit le texte, est livrée au ciel par les anges, conduits par leur chef, Michel ou Michael, déjà cité par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Au ciel, le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, nous dit le verset 8. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable, Diable c'est celui qui accuse faussement, celui qui calomnie, le menteur pervers, et Satan, celui qui est l'adversaire, l'ennemi, celui qui s'oppose, est précipité sur terre. La victoire des anges de Dieu sur les anges des forces du mal, sur les démons au ciel, permet de proclamer avec assurance au verset 10. Au ciel donc. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. La victoire est acquise à cause du sang de l'agneau. Ce qui est arrivé à Pâques sur terre au 1er siècle est à l'origine de la victoire des forces du bien voulues par Dieu contre les forces du mal liées à Satan. L'absence de justice et de paix, de fraternité et d'amour sur terre nous met devant l'évidence que le royaume de Dieu n'est pas encore actuel en 2018. Les grands de ce monde, les chefs des nations, quelle que soit l'hypocrisie de leur langage, voire leur référence à Dieu dans leur discours, sont influencés par les forces du mal. Même le nouveau Premier ministre australien, M. Scott Morrison, présenté comme chrétien évangélique fervent, est sous l'influence du mal lorsqu'il maltraite durement les réfugiés qui souhaitent s'installer en Australie. À ce jour, de toute évidence, tous les dirigeants des nations qui préconisent la défense des frontières nationales et privilégient la croissance économique au détriment d'une recherche durable de paix et de justice sociale sont assurément sous l'influence des forces du mal. Mais sur Terre, tout n'est pas perdu. La femme qui, nous l'avons vu, représente le peuple des enfants de Dieu, est dotée de moyens suffisants, en l'occurrence des ailes du grand aigle, pour s'éloigner et se tenir à distance du dragon en toute sécurité. Le serpent, dit le verset 15, lance de l'eau comme un fleuve derrière la femme, mais celle-ci est secourue par sa capacité à engloutir le fleuve destiné à sa destruction et faire disparaître le danger. Lorsque nous prions, comme nous l'avons fait, comme Jésus nous l'a enseigné, ne nous laisse pas entrer en tentation ou ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, nous demandons individuellement et collectivement la capacité à engloutir et faire disparaître, avec l'aide de Dieu, l'influence des forces du mal présentes sur terre. Au verset 17, il nous a révélé que le dragon continue sa guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La prière de Jésus nous a enseigné, reste au cœur de notre mission terrestre. Nous proclamons, nous annonçons, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À la fin du chapitre 12, Jean nous révèle que le dragon se tient sur le sable de la mer, c'est-à-dire qu'à ce stade de l'histoire du monde, Satan, le dragon, prend position au milieu des nations de ce monde. La lecture de ce passage au cœur du livre de l'Apocalypse nous révèle que nous, terriens, ne possédons pas la maîtrise des événements, que nous, terriens, malgré la liberté de choix que Dieu nous accorde, nous sommes sous des influences qui nous incitent à faire du mal. Les ailes de l'aigle, la puissance de Dieu et la capacité à engloutir le flot du mal craché par le serpent nous permettent néanmoins de nous soustraire, de nous désolidariser et de rejeter le mal qui abonde grâce aux promesses de notre Père. Grâce aux promesses de notre Père éternel et à la victoire définitive et acquise pour toujours de Jésus sur le mal et sur la mort. Alors, ce 12e chapitre de l'Apocalypse vous a-t-il éclairé sur ce qui se passe au-dessus et à côté de nous et que nous ne pouvons percevoir ? Apocalypse, en grec apocalypsis, signifie dévoilement, et non pas, comme cela est profondément ancré dans l'imaginaire populaire, catastrophe. Dévoiler, c'est le fait de démasquer, de rendre manifeste, de rendre évident. Le mot lui-même n'a rien à voir avec la fin du monde ou de son anéantissement. Il ne s'agit que de la fin de ce monde à l'envers, autrement dit, de la fin annoncée d'un monde d'injustice. Bonne nouvelle pour ceux qui souffrent et mauvaise nouvelle pour ceux qui profitent d'un pouvoir inique. Le livre de l'Apocalypse est une lettre adressée par Jean à sept églises qui sont en Asie, ici issue du travail des premiers chrétiens et probablement des voyages missionnaires de l'apôtre Paul pour partie. Toute cette région du monde était à l'époque sous domination romaine, dont le chef, l'empereur, exigeait qu'on l'adore comme une divinité, comme un dieu. L'un d'entre eux, particulièrement gratiné, si j'ose dire, a été un fervent opposant à cette nouvelle idée d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de mettre en application son enseignement. Au chapitre 13, apparaît une bête qui avait deux cornes comme un agneau, et qui parlait comme un dragon. Tous ceux qui n'adoraient pas la bête furent tués et tous les autres sont dotés d'une marque sur la main droite et sur le front, sans quoi ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Le nombre est 666. La tradition juive donne une valeur numérique aux lettres, et lorsqu'on additionne les valeurs des lettres de Néron César, la valeur totale est 666, la marque de la bête à deux cornes comme un agneau et qui parle comme un dragon. L'histoire nous dit que lors d'un gigantesque incendie de la ville de Rome, Néron a accusé les chrétiens d'être impliqués et a ordonné la mise à mort massive de ceux qui refusaient l'idolâtrie du culte de l'empereur qui l'imposait. C'était le temps des jeux du cirque et l'on donnait des humains, des chrétiens, à manger aux lions et d'autres furent crucifiés, voire même brûlés vifs. C'est une des périodes particulièrement sombres du début de la chrétienté. La lettre de Jean, lui-même exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi aux églises d'Asie, est en fait un encouragement à rester fidèle dans la foi malgré les tourments, les persécutions et les risques mortels d'une vie engagée pour une vie chrétienne. Les sept églises directement citées dans les deuxième et troisième chapitres sont immergées dans cet environnement humainement décourageant et extrêmement anxiogène. À quoi bon rester fidèle si c'est pour finir dans l'estomac d'un lion? À quoi bon annoncer le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ si c'est pour servir de torche humaine dans le jardin de Néron à la tombée de la nuit? Le message du livre de l'Apocalypse est que Dieu est à l'œuvre et qu'il est maître du temps. Les forces du mal sont actives, en particulier sur terre, mais le dragon, le serpent, Satan, le diable seront vaincus par la puissance et la volonté de Dieu en son temps. Le message de l'Apocalypse confirme également que Jésus, l'enfant, le Fils de Dieu, l'agneau, a vaincu définitivement le mal lors de sa résurrection et de son ascension vers les lieux célestes où il règne. Beaucoup de personnes, tout au long de l'histoire de l'Église, cherchent des interprétations, des détails et des recoupements avec l'histoire du monde pour spéculer sur le moment où Dieu mettra fin au monde corrompu dans lequel nous vivons pour l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem, la ville sainte venue du ciel, qui est décrite au chapitre 27. Dès le début de l'histoire du christianisme, des personnes ont annoncé des dates précises en interprétant les événements et en mettant en rapport les durées mentionnées par l'Apocalypse, en particulier les 1260 jours qui, grosso modo, représentent 42 mois et donc à peu près 3 ans et demi. La spéculation sur la datation des événements de la fin des temps concerne aussi bien l'annonce du retour de Jésus-Christ sur terre que la fin du monde actuel ou l'enlèvement de l'Église. Vous remarquerez que tous ceux qui ont annoncé une date précise pour ces événements se sont trompés jusqu'à ce jour. La Deuxième Guerre mondiale avec ses millions de morts, le retour d'Israël comme État-nation en Palestine, l'avènement du communisme, la montée de l'islam, la course à l'armement, les conflits pour l'accès à l'énergie et à l'eau potable, la montée en puissance des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et leur proposition d'intelligence artificielle, où vous n'existerez plus que si vous vous rappelez de vos identifiants et de vos codes d'accès. Sont tous des événements historiques majeurs qui, avec à peine un peu d'imagination, peuvent être rattachés aux différents fléaux et catastrophes décrits dans la vision de Jean. Mais le message qui nous est adressé aujourd'hui comme au premier siècle est que nous sommes appelés à rester fidèles au Christ et à son enseignement, même lorsque nous traverserons ou nous traversons les pires moments de l'histoire ou de notre histoire. Parce que la victoire finale appartient à Dieu, qui nous offre le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Je découvre de plus en plus, c'est pour conclure, que nous avons l'habitude, lorsque nous lisons la Bible, de lire quelques versets accompagnés d'un petit commentaire qui ne replace pas le message biblique dans son contexte. Pour préparer le message de ce matin, je me suis inspiré du petit livre de Nicolas Farelli, pasteur baptiste et professeur à l'église de théologie de Bouy-sur-Seine, « L'Apocalypse, les coulisses de l'histoire ». Et d'un article paru dans le 5 du mois de juin, dans les grands temples, qui parle également de l'Apocalypse. J'ai relu l'Apocalypse comme on lit un livre en quelques heures. Et l'impression générale est apaisante. Dieu règne, Jésus a vaincu la mort. Un jour, le monde corrompu sera remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre, bien plus qu'angoissante. Conflit, souffrance, guerre, jugement. Il est parfaitement clair que l'état actuel du monde découle d'un conflit entre les forces du mal qui influencent les hommes et les femmes, surtout lorsqu'ils accèdent au pouvoir, et la volonté de Dieu pour l'humanité entière de vivre en paix, dans un monde où la justice et l'amour du prochain deviennent réalité. La Bible forme un ensemble du début jusqu'à la fin. J'en cite entre autres des passages des psaumes ou du livre de Daniel. Pour ceux qui auraient tendance à identifier les événements historiques à relier aux descriptions de l'Apocalypse, pour annoncer, prophétiser la fin du monde et le retour de Jésus, je me permettrai de renvoyer au livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1, les versets 4 à 11. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Voilà des paroles de sagesse qui nous renvoie à notre humanité individuelle et collective devant Dieu l'Éternel. C'est lui qui a la maîtrise du cours de l'histoire et la victoire finale lui est acquise, et tous ceux qui resteront fidèles dans les épreuves connaîtront cette nouvelle terre et ce nouveau ciel. Et nous entendrons cette forte voix nous dire, dans Apocalypse 21, les versets 3 et 4, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen.